alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons en ce vendredi 21 novembre sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Emmanuel Urien. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Claire.
Avec qui nous allons parler de son recueil de nouvelles intitulé Le bruit de la gifle, publié aux éditions Quadrature. Mais avant la page info, pour vous faire un petit rappel, jeudi 27 novembre à partir de 19h au restaurant panoramique La Table du Belvédère, situé 11 boulevard des Récollets à Toulouse, au 8e étage, aura lieu la rencontre avec Benoît Séverac autour de son roman L'homme qui dessine, publié aux éditions Syros, mon invité de la semaine dernière, vous l'aurez reconnu, suivi d'un dîner avec l'auteur, une rencontre organisée par le club littéraire du Belvédère et Philippe Lasterle. Donc réservation au 05 62 26 69 14.
Page à page, Claire Ambille.
Mathieu qui fait la technique de cette émission. Merci Mathieu. Alors, je me tourne vers Emmanuel. Donc, le bruit de la gifle aux éditions Quadrature. Justement, j'aimerais dire un petit mot de cette maison d'édition qui a le bel objectif eh bien, de se dédier complètement à la nouvelle de langue française.
Oui, c'était un objectif affirmé dès sa création il y a 10 ans. En fait, ça fait 10 ans que Quadrature existe. Et donc, c'était très très clair pour eux, c'était la nouvelle et rien d'autre, et
en français, voilà.
Contrairement à beaucoup d'autres éditeurs, ils se sont vraiment tenus à cet objectif.
Bah, je trouve ça très bien, très bien. D'ailleurs, chez Quadrature, Emmanuel, tu as publié Toute humanité mise à part.
Oui.
Et puis Cours noir sans sucre, donc une version augmentée et rééditée chez eux.
Voilà, tout à fait.
Ton premier recueil de nouvelles.
Mon tout premier recueil de nouvelles, oui.
Oui, tout à fait. Alors, celui-ci de recueil, Le bruit de la gifle, alors c'est un recueil de 10 nouvelles, plutôt noires ces nouvelles, voire très noires pour certaines, mais colorées d'humour et d'une grande justesse d'analyse. Et puis elles sont teintées d'une réalité sans phare, avec l'évocation de thèmes actuels. Et puis ce sont des nouvelles où on retrouve ta belle écriture, hein, dont tu es coutumière pour notre plus grand plaisir, avec toute la finesse et la délicatesse, et qui met d'autant plus en exergue le côté sombre de ces histoires qu'elle raconte. Alors, 10 nouvelles qui claquent comme le bruit d'une gifle, comme le nom de ce recueil et le nom également d'une nouvelle qu'il y a dedans.
Oui, c'est une nouvelle qui s'appelle donc Le bruit de la gifle qui a donné ce titre au recueil. Bon, voilà, c'était toujours difficile de choisir un titre pour un recueil, même s'il y a un fil rouge, etc. Et puis, avec l'éditeur, on s'est dit c'est un titre qui pourrait marcher aussi bien pour le recueil que pour... pour le texte en question.
Ces nouvelles, elles claquent, hein, comme je viens de le dire. Elles claquent toutes. Hein. Ce sont des nouvelles avec des chutes vraiment magistrales et puis des nouvelles assez noires, on va le voir, et qui puisent dans la réalité de la vie, hein, aussi.
Oui, plus ou moins comme d'habitude. Je suis très, très ancrée dans les portraits sociaux, dans la vie au quotidien, mais dans son aspect plutôt dramatique.
Oui, oui, oui. Quand on te voit, t'es toute souriante et tout. Et quand on lit tes nouvelles, on se dit, mais où va-t-elle chercher
un petit peu d'observation.
Tout ce côté sombre. Mais c'est, en tout cas, c'est, moi, ce que j'aime, c'est très bien écrit. Moi, je suis très sensible à l'écriture. Et c'est toujours un plaisir de lire tes nouvelles parce qu'elles ont toujours le mot juste, l'image évidente. Et voilà, tout est dit, il n'y a rien à rajouter.
Mais merci.
C'est du Emmanuel Urien, comme dirait Benoît Séverac la semaine dernière. C'est ce qu'il a dit.
Venant de sa part et de la tienne, j'en suis particulièrement flattée.
Oui, mais c'est mérité, c'est mérité. Alors, on va commencer par, ça tombe que c'est la première du recueil, mais après, on fera pas forcément dans le même ordre. Pain, beurre, chocolat, c'est parce que bon, c'est bientôt l'heure du goûter, donc je vais commencer par celle-ci. Alors, c'est une nouvelle, on peut dire, gourmande, mais qui s'avère là aussi avec une chute excellente, que je laisserai découvrir bien sûr au lecteur. Alors, ça se passe au bord de la Manche, sur une plage touquetoise. Un homme seul mange un sandwich au beurre et au chocolat pendant que deux vieilles femmes l'observent et parlent de lui à voix basse, en se souvenant de qui il est. Le petit Armand. Et donc le lecteur va découvrir peu à peu donc l'histoire du petit Armand.
Oui, découvrir la raison de sa présence sur cette plage, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait il y vient tous les ans
à la même époque,
s'asseoir devant la mer pour manger un
casse-croûte
pain beurre chocolat.
Alors, on peut dire qu'il a perdu ses parents très jeune,
oui,
et qu'il a été adopté par son oncle et sa tante. Qui sont des personnages très hauts en couleur par rapport à, enfin, qui sont en parfait décalage tout du moins avec ses parents et avec lui-même, quoi.
Oui, voilà, c'est des personnages qui sont des personnes très extravagantes, très extraverties, remuantes,
bruyantes.
Alors,
toujours en action.
Voilà, Armand était habitué à plus de calme et est lui-même un enfant plutôt introverti, donc ça va faire un contraste qui va,
oui,
un peu.
D'ailleurs, les passages sont amusants quand tu décris le décalage qu'il y a justement entre l'aspiration du jeune Armand à une vie plus calme et silencieuse et puis donc la vie trépidante et bruyante de ses parents adoptifs, et malgré la gravité de la situation, hein, on sourit à la lecture, comme par exemple autour d'eux, rien ne restait en place, les objets comme les hommes. Sursautaient, vacillaient et finissaient par tomber. Et Armand ne fit pas exception à la règle et il fut entraîné dans l'œil d'un cyclone permanent et qui semblait ne jamais devoir faiblir. Donc voilà, ça donne le ton de...
Voilà, ça résume à peu près les sensations qu'il peut avoir avec ces gens-là.
Oui, parce que lui, il rêve de calme, de silence, il fait la collection des timbres.
Oui, il a des activités
très calmes.
Très calme.
Voilà, ou à lire, il lit aussi. Alors les vacances, eh bien, c'est toujours au même endroit, c'est les vacances au Touquet, dans un camping, et non pas chez l'habitant comme aimerait Armand. Il rêve d'un petit nid douillet chez l'habitant, mais non, c'est dans une tente entre son oncle et sa tante.
Voilà, puis ça tient plutôt du camp militaire,
oui,
que du camping à la ferme.
Oui, tout à fait, c'est vraiment... Alors, il n'y a guère... Alors, oui, et on parlait du côté bruyant aussi de ses parents adoptifs. Lui, il rêve de silence, le silence de l'oisiveté, quand tout autour est si doux à sentir, à voir, quand les odeurs remplacent si bien les bruits. Et puis, il dit aussi, l'oncle et la tante parlaient la bouche pleine, ils ne se taisaient jamais. Donc on imagine les gens qui parlent tout le temps, même quand ils sont en train de manger.
Oui, c'est très stressant.
C'est épuisant. C'est assez épuisant. Donc des vacances très bruyantes et très actives pour le pauvre Armand. Mais heureusement, il a du répit quand c'est l'heure du goûter, justement. Pain, beurre, chocolat. C'est le goûter qu'ils prennent quotidiennement tous les trois sur la plage avant que l'oncle et la tante ne se reposent un petit peu. D'ailleurs, il dit, durant quelques minutes, il faisait semblant de ne rien faire. Et avant de s'élancer dans l'eau pour nager un peu, alors lui peut rester à ce moment-là tout seul à manger, à déguster son pain beurre chocolat, et puis avec le bruit des vagues et puis les quelques bruits, le bruit aussi des grains de sable qui crient sous ses dents en même temps que le sandwich, que le goûter.
Oui, c'est une image tout droit tirée de mon enfance aussi, où j'ai fait comme tous les gamins à la mer, transi après avoir pris un bon bain, on a le pain et le chocolat, voire le beurre et toujours un peu de sable dedans.
Oui, voilà. Et ouais,
c'est toujours des souvenirs. Il y a une nostalgie dans tout ça. Donc ça, je l'ai mis dedans.
Tu l'as mis dedans.
Ça fait partie du côté contemplatif.
Oui, voilà. Il regarde la mer.
Et ça sert aussi un peu l'histoire.
Voilà. Et il regarde la mer. En plus, c'est une délivrance d'être enfin seul, que l'oncle et la tante soient allés se baigner. Donc là, il peut profiter du bruit des vagues, du bruit des grains de sable voilà, sous ses dents et déguster son goûter. Pour lui, c'est vraiment un vrai régal. Et puis, donc, durant des années, ça va être les mêmes vacances, au même endroit, dans les mêmes conditions. Et puis, voilà, on apprendra. Enfin, après, on découvre voilà, qu'il est là chaque année, à la même époque, avec son goûter pain, beurre, chocolat, sur la même plage du Touquet.
Voilà, des années et des années plus tard.
Oui, des années. À l'âge adulte. Voilà, c'est ça, j'avais oublié de le dire, peut-être. Mais voilà, oui, à l'âge adulte. Voilà, il n'est plus un enfant. Il est à l'âge adulte et il continue de venir sur cette même plage au Touquet. C'est un endroit que tu connais, le Touquet ? Tu y allais pendant
ton enfance ? Oui, j'y suis allée.
Non,
pas trop. J'y suis passée une ou deux fois il y a longtemps, mais... Voilà, c'était un endroit qui me semblait intéressant. Puis la mer est froide, donc c'était bien pour mon propos aussi.
Oui, tout à fait. Donc voilà, la nouvelle qui est la première de ce recueil, pain, beurre, chocolat. Alors il y en a une autre que j'ai... Bon, je les ai toutes aimées, hein, donc je veux dire à chaque fois, oui, je l'ai bien aimée celle-là, mais bon, c'est vrai. Mécanique de l'attente. Alors c'est une nouvelle où, pareil, la chute est excellente également et à laquelle on ne s'attend pas du tout. Enfin, moi, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, c'est une femme qui quitte mari et enfant, qui quitte la vie avec eux et part s'installer dans une maison, dans la maison d'une vieille tante qui vient de décéder, dans le sud de la France.
Oui.
Et elle ne veut plus attendre, elle n'attend plus rien, elle en a un peu marre de la routine, de cette vie, d'attendre les enfants qui rentrent de l'école, le mari qui rentre du travail. Elle a un peu un ras-le-bol de cette...
Oui, voilà, elle a décidé de ne plus rien attendre.
Voilà.
Donc ça, c'est décrire comment on fait quand on n'attend plus rien.
Oui, oui, oui. Alors d'ailleurs, c'est très bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'est très juste dans l'écriture et dans l'analyse. Elle dit par exemple, j'ai épousé un homme, élevé nos enfants, je leur ai donné ainsi qu'à quelques patrons mon énergie, mon dévouement, mon corps et mon temps. Et puis elle dit aussi, j'ai quitté ma vie sans rien dire, pas une lettre, pas un message, pas même un post-it collé sur le frigo avec le mot « adieu » ou « merde » écrit en travers et en rouge. C'est vrai qu'on a cette image, on a dû le faire peut-être une fois dans sa vie.
On a toujours des projections comme ça et puis bon, ça passe. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui arrive quand ça ne passe pas et que finalement... Voilà, on décide de joindre le geste à la pensée.
Tout à fait. Et puis alors, il y a une très belle phrase aussi que je vais citer quand elle parle de ses enfants. Parce que bon, quitter son mari, c'est une chose, mais ses enfants, c'est vrai que ça paraît
plus
difficile, surtout quand on est soi-même maman. Alors, mon amour pour vous m'a été livré à votre naissance, indissociable de vos corps. Depuis, je le porte comme une lourde parure, un boulet précieux en pendentif. Quant à l'amour qui m'a un jour lié à votre père, il a connu son lot de petites morts lentes avant de se dissoudre dans un quotidien trop acide pour lui conserver un semblant de douceur. Alors moi, je trouve que c'est magnifiquement dit et ça fait mouche.
Merci.
C'est vrai, c'est...
Oui, c'est...
C'est ça.
Oui, c'est la description de la routine. C'est un recueil qui parle beaucoup de routine, d'habitude, de ce que, justement, c'est...
Pour la plupart des...
Oui.
Parce que je pense à certaines...
Oui, il y a toujours un fond lié à ça, ou à des marottes,
ou
des tics, etc. Mais là, c'est vraiment ce que peut faire l'habitude. Ça ronge, et voilà, comme cet acide dont je parle.
Mais bon, voilà, les enfants, voilà, c'est un boulet en pendentif.
Un boulet précieux
en pendentif. Oui, il ne faut pas oublier précieux quand même. Un boulet précieux en pendentif, voilà. Mais j'aime beaucoup toutes ces images qui se dégagent de ton écriture. C'est agréable, je trouve, à lire, voilà. Et puis, alors, la suivante, donc évidemment, je laisse au lecteur découvrir la suite et la chute de cette nouvelle, donc la mécanique de l'attente. Et puis là, nous allons parler de Tête morte. Alors, celle-ci, c'est une nouvelle qui m'a énormément marquée, j'en ai même rêvé.
C'est j'en suis désolée. Dire.
Et elle est très noire, elle est assez éprouvante et elle a une chute magistrale, sans appel, comme un coup près. Voilà. Alors, je raconte un petit peu l'histoire, hein, mais sans plus, hein, je fais attention. Alors, un homme qui travaille dans un centre d'hébergement pour sans-abri va découvrir un soir, parmi eux, son père, qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Alors, j'ai beaucoup aimé les phrases qui sonnent justes et qui racontent la misère, comme par exemple « Il tremblait encore à l'unisson, de fatigue, de froid et de faim, la sainte trinité des sans-abri ». Ou encore « Les Archimèdes à la Gabin », j'ai beaucoup aimé cette image, c'est vrai qu'il y en a des Archimèdes à la Gabin, des un peu gouailleurs et avec une certaine science, enfin une grande culture
même. Oui, c'est l'image qu'on peut se faire d'un vieux sage, mais qui a décidé, qui est presque dans la rue par choix et qui en est content.
Oui, tout à fait.
Et en fait, dans notre réalité, ces gens-là, on n'en croise pas vraiment, quoi, mais... De temps à autre, il y en a
on
qui
en
peuvent
croise,
nous faire
voilà.
entrevoir un peu cette image.
Des Archimèdes à la Gabin. J'ai bien aimé l'association de Archimèdes et Gabin. Et puis donc, mais pour ceux que le narrateur a devant les yeux ce soir-là, il dit « Ceci était au stade final du désespoir ». Voilà, ils ne sont pas tous des Archimèdes à la Gabin, malheureusement.
Oui.
Alors, il dit aussi, ils avaient tous un masque de disgrâce brute et sale. La réalité est une souillon sans état d'âme. Ils s'étaient appliqués à s'effacer de leur propre vie et s'étaient retirés dans la marge, là où les gens ne vont pas, une canette de 8-6 à la main pour achever de se dissoudre. C'est vrai que c'est une réalité sans phare que tu décris.
On est dedans et puis ça fait un certain temps que j'écris cette nouvelle, mais j'ai envie de dire de plus en plus. Ouais.
Malheureusement, rien n'a changé. C'est bien le problème.
C'est terrible.
C'est dramatique. Et on lit aussi un pas de côté pour les éviter, un autre pour les oublier. Même du pied gauche, marcher dans la misère n'a jamais porté bonheur à personne. C'est terrible. Et puis aussi, tu ne le remarques même pas tellement il a pris l'apparence des murs, gris, froid et fissuré de partout, surtout à l'intérieur, là où ça ne se voit pas. C'est avec tout leur passé, toute leur douleur, leur vie.
Ça construit un mur à l'intérieur et ça se fissure en même temps.
C'est ça. Et alors, le lecteur va découvrir peu à peu l'histoire du narrateur. Alors, le narrateur qui fait l'appel donc des sans-abri ce soir-là et qui va dire le nom de son père. Et il dit « Il venait d'entendre un nom, deux mots dans lesquels il pouvait mettre quelqu'un, un prénom qu'il avait bien, une personne pardon, qu'il avait bien connue et qu'il avait tout fait pour oublier. » Et c'est ça, c'est de les appeler par leur nom, ça leur fait...
Oui, parce que alors quand j'ai écrit cette nouvelle, je suis allée justement discuter avec des SDF de mon quartier ou d'autres. Malheureusement, ce n'est pas ça qui manquait, on va
c'est
dire.
Sûr.
Et j'ai discuté avec eux parce que ça m'arrive régulièrement. Mais là, vraiment, j'avais envie d'écrire sur eux, donc... Donc il y a vraiment ça.
C'est un peu
il y
un hommage, un hommage dans le sens d'une certaine...
C'est aussi pour les faire exister un
oui,
peu
oui,
autrement
oui,
que de cette façon. Enfin, c'est un peu
oui,
les fantômes
sont des
qui
êtres
sont autour
humains,
de nous. Parfois des parasites, on est aussi gênant que des pigeons. Enfin voilà, c'est devenu un peu ça. Et pour certains, il y a vraiment une démarche d'effacement, soit volontaire. Pour beaucoup, ils ne sont pas là par hasard et ils ont envie d'oublier ce qui s'est passé avant. Ils ont envie d'oublier qui ils sont. Et dans ces cas-là, le nom, effectivement, les nommer, ça les replonge...
Dans leur vie d'avant,
dans
entre
chose,
guillemets, ou dans quelque chose qui...
Ils se remettent à exister, ils n'ont pas forcément envie, d'ailleurs.
Oui, voilà, c'est ça. Ça dépend. Alors, le narrateur parle aussi de lui-même en disant « Mes souvenirs prenaient peu de place, ils remplissaient à peine un sac poubelle. » Il dit aussi « Je ne laissais plus affluer le passé que pour aider les autres que le ciel n'aide pas. C'était devenu mon credo, les derniers seront les premiers. » Justement, voilà, il a décidé de dédier sa vie à aider les autres.
Oui, voilà, le narrateur est quelqu'un qui est tourné vers
les autres.
Son prochain et en particulier quand celui-ci est en phase d'effacement final.
Total, voilà, ouais, final. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, malgré son côté très noir et très... Oui, voilà, on en sort, je vous dis, on n'en sort pas indemne. Hein, indemne, on y pense.
C'est une des...
On y pense après. Hein,
une des rares nouvelles qui n'a absolument aucun humour, en fait. Je m'en suis aperçue.
Ah oui, non, là, il n'y en a pas. Là, c'est vraiment.
Généralement, les nouvelles noires que j'écris ont des passages légers, il y a un décalage.
Oui, mais là, non. Là,
mais dans celle-ci,
sombre,
non, je m'en suis aperçue assez tard.
Puis, mais bon, voilà, enfin, c'est comme je disais, hein, elles sont toutes teintées de réalité sans phare, elles ont toutes voilà, un côté sans appel, un côté magistral, et celle-ci est vraiment l'exemple de à 100% comme ça. Donc c'était Tête morte. Alors il y en a une aussi que j'ai beaucoup aimée, qui est plus légère, mais dans un style différent, mais enfin qui est bien noire aussi, c'est Tableau de chasse. Elle est terrible, celle-ci aussi, avec une chute, donc tel un coup près. Donc c'est un fils, elle est courte, hein, mais il y a des passages, comme tu disais, là, dans celle-ci, dans un tableau de chasse, il y a des passages amusants, on va le voir là, le décalage, enfin la cohabitation. Donc c'est un fils qui est obligé d'héberger son père qui est veuf pour la xème fois. Alors ça déjà, c'est pas que c'est drôle, mais enfin bon, comment c'est écrit?
Oui, c'est un peu extravagant.
C'est un homme extravagant, voilà, qui est veuf pour la xème fois. Donc déjà, leur cohabitation est difficile, chaotique et semée d'embûches et d'accidents domestiques. Et c'est ça justement, c'est ce décalage qui est amusant. Le passage est amusant quand on lit justement le fils qui essaye de pallier aux bêtises de son papa, et puis au papa qui a l'air complètement extravagant, voilà, qui fait...
Oui, le père est complètement dans son monde à lui.
Ah oui, voilà, dans sa bulle.
Et le fils essaie de l'aider, et en même temps il trouve que ça commence à bien faire.
Voilà, donc il en a marre, et bien ma foi, il va trouver une solution à son problème, on va dire. Voilà, qui est... Donc on laisse le lecteur découvrir la chute de celle-ci, Tableau de chasse. Et puis alors, il y en a une aussi qui me tient à cœur, c'est Insulaire, un joli titre pour un voyage particulier.
Oui.
Insulaire. Alors, un clin d'œil à Manche-Clou d'Albert Cohen et à l'Assommoir de Zola, d'Émile Zola.
Oui, il y a des clins d'œil à un certain nombre de livres qui moi, m'ont marqué. Et ben, c'est une nouvelle que j'ai écrite pour la lecture, en fait, pour les livres.
Oui,
pour ce
c'est un hommage,
il
y a un très bel hommage
et,
au livre, à la lecture.
Je me suis souvent perdue dans des livres. Et là, du coup, j'en ai tiré cette idée, c'est jusqu'à quel point on peut s'y perdre et pourquoi.
Oui. Alors justement, c'est un homme et une femme. Alors, j'aime beaucoup parce que donc, la femme s'appelle Aimé, A-Y-M-E. Et alors au début, le narrateur, donc, qui est l'homme, elle est aimée, je suis l'aimant. Alors déjà, c'est tout un jeu de mots, de consonances. Et c'est, voilà, tout
oui,
est
c'est,
dit.
Oui, cette nouvelle est beaucoup... écrite avec des jeux de mots,
oui.
des rebonds, des renvois.
Alors leur histoire va être racontée par le narrateur, même écrite,
oui.
Quelque part, hein, d'une certaine façon. Et on va donc découvrir leur histoire. Alors c'est un hommage, comme tu le disais, au livre, à la lecture, parce qu'à un moment, le narrateur écrit un livre, « Terre émergente, asile offert sur l'océan des Dralis ». Oui, des Dralis, parce que Aimée est malade. Elle a une grave maladie et donc elle se réfugie dans la lecture, donc beaucoup, beaucoup de livres, dont Manche-Clou, dont L'Assommoir, dont d'autres aussi. Et donc elle se réfugie donc dans la lecture et il dit d'ailleurs, le narrateur dit de cette attitude, retirée dans des eaux étrangères, parce que lui se sent complètement seul et abandonné du fait que Aimé se réfugie dans la lecture.
Oui, elle a cessé de vivre avec lui pour vivre dans les livres.
Dans
en
les
fait.
Livres,
il est,
voilà.
Il n'est plus
et
qu'un
par
accessoire.
Les livres, et par les livres aussi. Et
il n'y a plus que là qu'elle vit, en fait.
C'est
elle
vrai.
Vit dans un territoire étranger qui est celui de la lecture.
Alors, il dit aussi, je vais bourdonner ma tristesse dans la pièce d'à côté, l'océan... nous sépare et j'ai peur des tempêtes. Et puis il dit aussi, les mots qu'il a remus sont toujours ceux des autres, ma parole lui est étrangère. Et puis il décide du coup un jour d'écrire leur histoire. Il dit, avec fureur sur le clavier, je frappe ma passion pour elle.
Oui, c'est devenu la seule manière dont il peut envisager de communiquer avec elle, en fait. Il se dit que puisqu'elle lit et qu'elle se perd dans la lecture, eh bien, il va lui écrire leur histoire et que ce sera peut-être un moyen de l'atteindre et de communiquer avec elle.
Un moyen de l'atteindre. Et le narrateur, à un moment, dit aussi le fait, donc il tape sur le clavier, donc il écrit cette histoire sur un ordinateur, et il dit « Notre vie me semble soudain propre et formatée, et c'est une île de plus que je lui offre, un refuge que j'espère cette fois assez grand pour nous deux. »
Oui, voilà.
C'est beau, je trouve.
C'est un homme très, très amoureux et très désespéré.
Oui. Ah oui, 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 lui offrir une île, c'est toute une image, c'est tout un monde, c'est tout un... Et puis, il y a donc cette bombe, malheureusement, hein, sur leur île, qui est la maladie d'Aimé. Et puis, donc, par rapport au livre, le narrateur dit « Elle entasse bouquins et manuscrits, bâtit à la force du poignet une forteresse qui monte jusqu'au ciel. » Puis, il dit aussi « un livre, et encore un livre, ça n'en finit pas. Elle s'éloigne par étapes, par à-coups chapitrés. » c'est tout à fait ça.
Oui,
par à-coup chapitré, c'est...
Oui, de chapitre en chapitre.
Et oui, c'est ça, oui, oui, oui. C'est... Elle s'éloigne à chaque chapitre qu'elle va lire, elle s'éloigne un peu plus. Mais c'est un bel hommage à la lecture et au livre, hein, cette nouvelle.
C'est tout à fait. L'aspect est un peu dramatique.
Oui, parce que
l'histoire, mais
il y a une chute, évidemment.
Mais c'est vrai que le livre nous emporte.
Oui, c'est un voyage.
On peut partir ailleurs
ça,
et se détacher complètement de l'extérieur quand on est dans un livre.
On peut être sur une île déserte pendant une semaine, des jours.
On peut s'y enfermer complètement après.
Aussi, oui.
C'est des choix,
bon,
mais moi,
là,
j'ai,
après,
j'ai...
Oui, voilà.
Quand j'étais petite, j'ai souvent eu mes parents qui me disaient il faut te sortir un peu des livres. Tu passes ton temps, dans les livres.
Oui.
Et ça sonnait comme quelque chose de très très négatif, alors que je passais des super moments.
Oui, parce
qu'il y a ce contraste aussi, ça peut faire un peu peur de l'extérieur. Donc là, j'ai porté ça un petit peu à son extrême dans cette histoire.
Tout à fait, oui, parce que, comme je disais, dans ce recueil, les chutes ne sont pas roses, hein, loin de là, mais en tout cas, c'est ça, c'est qu'on rentre, quand on est dans un livre, on rentre dans un monde, un univers, et des fois, on a du mal à le quitter. Hein,
on a tendance à plonger dans un nouveau,
parce
que finalement, la réalité est moins,
moins
drôle.
C'est plus difficile. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'émission, il y en avait encore une dont j'aurais voulu parler, mais on va pas avoir trop le temps, c'est Les pieds dans le plat. Celle-ci est amusante. C'en est une des rares qui n'est pas trop noire.
Elle est beaucoup plus légère que les autres.
Voilà,
et
plus légère.
Elle finit même pas trop mal, en plus.
Non, c'est vrai. Et puis elle est très amusante, hein, avec le gigot. Hein, le dimanche, c'est gigot. Hein, c'est le jour du gigot. Et alors, le gigot, il faut savoir que c'est un plat qui ne souffrait d'aucun retard et d'aucun alibi. Alors, quand on sait que c'est dans une histoire policière, si on peut dire, avec des policiers, hein, le fait de ne souffrir d'aucun alibi, ça fait c'est rigolo, ça fait sourire. Donc c'est une nouvelle qui est amusante, avec un inspecteur et son gendarme, un ogre à Bacchante, comme il le décrit, qui est pressé de rentrer chez lui manger le gigot du dimanche. Et alors que l'inspecteur Miotte, il s'appelle comme ça, lui est plus enclin à prendre son temps pour interroger, pour parler avec la personne qu'ils sont allés voir en ce dimanche midi. Il prend son temps pour lui parler, pour la détailler, etc. Donc elle est assez amusante dans ce décalage entre les deux personnages. Et puis après, pour la suite de la nouvelle, dont je n'en dirai pas plus. Alors, merci beaucoup, Emmanuel, d'être là aujourd'hui avec moi. Et puis, pour ce recueil donc si percutant, Le bruit de la gifle, publié aux éditions Quadrature. Alors, j'imagine que tu as d'autres projets d'écriture.
Oui, j'ai toujours un roman sous le coude.
Ah, un nouveau roman.
Qui souffre un petit peu du peu de temps que je lui accorde, mais bon, ça va finir
ça
par
va
se faire.
Voilà,
un peu plus long d'habitude, donc... Et puis,
il sera plus long que le précédent de L'art difficile.
Il est déjà presque au volume du précédent, et je suis assez.
Tu n'as pas encore
fin,
fini.
Bon, j'espère que je ne vais pas faire un pavé de 800 pages, ça va ennuyer tout le monde.
Cela ne nous dérange aucunement, Emmanuel.
Non, je pense que ce sera plus modeste que ça quand même, mais bon, voilà, j'ai ce roman en cours. Je ne sais pas encore quand il sera fini, publié ou quoi que ce soit, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus.
Tu nous tiendras au courant pour revenir nous le présenter à page à page. Donc voilà, plutôt un roman, donc pas de, d'autres nouvelles.
Il y aura peut-être quelque chose. On est en train de regarder ça avec les éditions Inuit. Mais,
De nouveau,
Les éditions Inuit. Je travaille dessus en ce moment.
D'accord.
Donc voilà, ça sera une nouvelle unique. Mais non, pas de recueil pour l'instant.
Pas de recueil.
Ça reviendra.
On reste sur Le Bruit de la Gifle aux éditions Quadrature. Et croyez-moi, quand vous l'avez en main, vous irez jusqu'au bout de toutes ces nouvelles et vous en sortirez, je ne sais pas comment, mais peut-être que vous rêverez comme moi de Tête Morte ou d'une autre de ces nouvelles. Mais en tout cas, c'est un recueil que je vous recommande chaleureusement. Alors, on se retrouve le vendredi 5 décembre sur Radio Occitanie à 15h en direct. Je recevrai Henri Meunier et son joli album « Cours des miracles » publié aux éditions du Rouergue. Et puis n'oubliez pas que ce soir à 23h, rediffusion de cette émission avec Emmanuel Urien. Et je vous souhaite une bonne semaine. Merci à Mathieu qui a fait la technique de cette émission. Et à d'ici à